22h à Paris, minuit en temps universel. Vous êtes bien à l'écoute de la Radio du Monde.
Antoine Galen.
À la une, le Groenland n'est pas à vendre. Les mots du Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen. Il était au Danemark ce dimanche. Une visite synonyme de rapprochement entre les deux pays. Tandis que Donald Trump a plusieurs fois averti qu'il souhaitait contrôler ce territoire autonome du royaume danois. L'Organisation de libération de la Palestine connaît désormais le nom de son vice-président. Il s'agit d'Hushen El-Sheikh. Qui est-ce et pourquoi cette nomination? Élément de réponse à suivre. Dans ce journal également, de nombreux rassemblements en hommage à Aboubacar, ce jeune malien d'une vingtaine d'années, tué de plusieurs dizaines de coups de couteau vendredi dans une mosquée du Gard dans le sud de la France. 48 heures après l'assassinat de ce fidèle musulman, le ministre de l'Intérieur s'est finalement rendu sur place. Et puis en football, après une victoire 5-1 contre Tottenham, Liverpool est sacré champion. 20e titre en championnat pour les Reds, qui égale le record de Manchester United. Vous avez les titres? Bienvenue. Premier grand test pour le nouveau Premier ministre du Groenland. Jens Frederik Nielsen s'est rendu au Danemark ce dimanche. Le Groenland, territoire autonome mais qui appartient au Royaume danois. Et cette visite à Copenhague acte un rapprochement entre les deux pays alors que le président américain Donald Trump continue ses menaces d'annexion et de rachat du Groenland. Mathias Trude.
Nous ne serons jamais, au grand jamais, une propriété que quiconque peut acheter. Ce sont les mots de Jens Frederik Nielsen en conférence de presse. Le tout nouveau Premier ministre de centre-droit du Groenland se dit toujours ouvert aux alliances et partenariats avec d'autres pays, à condition de ne pas être vassalisé.
Le dialogue avec les États-Unis a été irrespectueux. C'est pourquoi nous devons nous serrer les coudes. Et le Groenland est prêt à le faire avec tous les pays qui nous veulent du bien et cherchent un partenariat dans un respect mutuel.
Il se tient aux côtés de son homologue danoise, Mette Frederiksen, qui hoche la tête en souriant. Elle non plus n'apprécie pas les menaces d'annexion du territoire par Donald Trump, ni la visite impromptue en mars de son vice-président J.D. Vance sur la base américaine groenlandaise. Elle accordait à Nuuk une visite officielle début avril. C'était juste après la prise de fonction du Premier ministre groenlandais et de son gouvernement de coalition. Il rend l'ascenseur ce week-end avec une visite à Copenhague qui doit durer 2 jours. Signe d'un véritable rapprochement avec le Danemark, il rentrera accompagné du roi Frédéric X.
La Corée du Nord confirme avoir déployé des troupes en Russie. Elle affirme que ses soldats avaient aidé Moscou à reprendre les zones de la région russe de Koursk sous contrôle ukrainien pendant des mois. Koursk où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré dimanche que son armée poursuivait les combats tout en réfutant l'annonce de sa libération par Moscou. De son côté, Donald Trump demande à son homologue russe Vladimir Poutine d'arrêter de tirer et de conclure un accord. Le Canada a endeuillé samedi soir, une voiture a foncé dans la foule. Bilan, au moins 11 morts et des dizaines de blessés. L'attaque a visé un festival de la communauté philippine. L'assaillant souffrirait de problèmes de santé mentale selon la police. Un drame avant les élections législatives prévues ce lundi. Au Proche-Orient, le nom du vice-président de l'Organisation de libération de la Palestine est tombé. Il s'agit d'Hushen El-Sheikh. Le numéro 2 va épauler officiellement Mahmoud Abbas, en poste depuis plus de 20 ans. Alors qui est-il et pourquoi cette désignation maintenant? Élément de réponse avec Amira Soulem à Ramallah.
Du haut de ses 64 ans, Hussein El-Sheikh semble apporter un vent de jeunesse à l'OLP. Un quart de siècle plus jeune que Mahmoud Abbas, le vice-président de l'OLP n'est pas un inconnu. Proche conseiller du président de l'OLP, Hussein El-Sheikh a passé 10 ans dans les prisons israéliennes. Lui qui a appris l'hébreu en détention était chargé jusqu'ici des questions sécuritaires ainsi que d'un comité supervisant les missions diplomatiques palestiniennes à l'étranger. Cette nomination intervient alors que l'Union européenne et la Ligue arabe pressaient Mahmoud Abbas d'entamer des réformes en vue du rôle que l'autorité palestinienne pourrait jouer dans l'hypothétique après Hamas à Gaza. La semaine dernière, les Européens avaient justement conditionné leur aide d'1,6 milliard d'euros à une ouverture politique. La désignation d'un vice-président de l'OLP sans passer par un vote sera probablement insuffisante pour renouer la confiance à l'international, d'autant que le contexte interne est de plus en plus tendu. Mahmoud Abbas fait face à un discrédit grandissant au sein de la population de Cisjordanie occupée qu'il administre. Avec des finances asséchées et totalement dépendantes des transferts que Tel Aviv accepte de laisser passer, l'autorité palestinienne, qui collabore avec les forces israéliennes dans les camps de réfugiés palestiniens, a perdu la confiance de son propre peuple. Amira Sulem, Ramallah, RFI.
Et cette nomination intervient 3 jours après la sortie remarquée de Mahmoud Abbas demandant la libération des otages israéliens. La bande de Gaza visée par l'État hébreu, la défense civile palestinienne fait état de 50 morts dans des frappes ce dimanche. Le ministère de la Santé du Hamas a par ailleurs revu à la hausse son bilan provisoire de la guerre dans l'enclave. Le nombre de morts s'élève à 52 243 Gazaouis depuis le 7 octobre 2023. Le sud de Beyrouth, touché par une frappe israélienne, l'État hébreu dit avoir visé un entrepôt de missiles de précision du Hezbollah et assure avoir tué un membre du mouvement chiite pro-iranien. 3e fois que l'armée israélienne vise la capitale libanaise depuis le cessez-le-feu du 27 novembre dernier. Quelques heures plus tôt, elle avait appelé à évacuer la zone. Le président libanais appelle Washington et Paris à contraindre Israël à cesser ses frappes. Direction Kinshasa où s'est rendu le chef de la diplomatie belge Maxime Prévost. Une tournée diplomatique dans la région des Grands Lacs où il doit rencontrer le président Félix Tshisekedi. La Belgique, ancienne puissance coloniale en RDC et au Rwanda, qui souhaite œuvrer pour une fin de conflit apaisé dans l'est de la République démocratique du Congo. En France, de nombreux rassemblements en hommage à Aboubacar, ce jeune Malien d'une 20aine d'années, tué de plusieurs dizaines de coups de couteau vendredi dans une mosquée du Gard, dans le sud de la France. 48 heures après l'assassinat de ce fidèle musulman, le meurtrier est toujours en fuite. La piste d'un acte anti-musulman est privilégiée. Le ministre de l'Intérieur s'est finalement rendu sur place. Bruno Retailleau a assuré les proches de la victime de sa compassion et la communauté musulmane de son soutien et mis en avant les moyens déployés pour arrêter l'assaillant, identifié, mais toujours en fuite. On l'écoute.
Nous avons donné tous les moyens possibles, imaginables, pour qu'on puisse rattraper très très vite cet individu. Nous l'aurons. Nous avons mobilisé plus de 70 enquêteurs. Il y a une force de frappe mobilisée. Croyez-moi qu'ils ne ménagent pas leur temps. C'est nuit et jour qui sont à la poursuite de cet individu qui a tué dans des conditions parfaitement ignobles, inacceptables. Inacceptable. Malheureusement, une vidéo a circulé sur les réseaux. D'autres, notamment les enquêteurs, ont pu voir ces images, qui sont des images terribles, puisqu'il y a eu des dizaines de coups de couteau. Et je voudrais redire que ce meurtre s'est passé dans des circonstances qui sont terribles, qui sont particulières. C'était une mosquée, un lieu de culte, un lieu de paix, et ce jeune homme priait son Dieu. Il a été assassiné dans ces circonstances. On ne connaît pas encore les mobiles. Le procureur de la République ne néglige aucune piste. Bien sûr que la piste d'un acte anti-musulman n'est pas du tout négligée, bien au contraire. Bien au contraire. Mais une fois de plus, il est hors de question de tolérer dans cette société hyper violente ce genre d'acte.
Le racisme et la haine en raison de la religion n'auront jamais leur place en France, les mots d'Emmanuel Macron sur X. À Rome, au moins 25 000 personnes ont défilé ce dimanche pour se recueillir devant la tombe du pape François. Sur la place Saint-Pierre, une messe s'est déroulée au lendemain de ses funérailles. En football, record égalé, Liverpool est champion d'Angleterre pour la 20e fois. Une prouesse que seul Manchester United avait réussi. Victorieux cet après-midi de Tottenham sur le score de 5-1, les Reds ont réalisé un véritable exploit, Eric Mamrut.
La fête était totale à Anfield Road. Les supporters de Liverpool, une nouvelle fois conquis par la prestation de leur équipe, même pas déstabilisés par la rapide ouverture du score de Tottenham, car ensuite la machine rouge s'est mise en marche, enquillant les buts pour aller chercher son 25e succès de la saison. À Liverpool, seulement battu à 2 reprises en 34 journées, qui aura imposé un rythme infernal à ses adversaires. Manchester City, le quadruple champion sortant, a rapidement lâché prise, imité par Arsenal, son actuel dauphin, relégué à 15 longueurs. Et dire que les Reds partaient dans l'inconnu en début de saison suite au départ de leur entraîneur emblématique Jürgen Klopp. En 9 ans, le technicien allemand avait offert 8 trophées à Liverpool, dont la Ligue des Champions. Son successeur, le néerlandais Arne Slot, n'avait jusque-là entraîné qu'aux Pays-Bas. Mais rapidement, il a su tirer le meilleur d'un groupe resté inchangé durant l'été. Le meilleur d'un Mohamed Salah, l'égyptien pharaonique à 32 ans. Il est l'actuel meilleur buteur et meilleur passeur de la Première Ligue. Bien épaulé par les Van Dijk, Konaté et autres McAllister, il permet à Liverpool de décrocher une 20e couronne d'Angleterre d'Angleterre, égalant ainsi le record de Manchester United. De quoi combler encore un peu plus ses supporters, privés de célébration en 2020 lors du titre précédent en raison du Covid.
Et Arsenal se consolera avec son équipe féminine. Les Gunners sont en finale de la Ligue des Champions. Ce sera contre le FC Barcelone. Les Espagnols qui ont battu ce dimanche soir les Lyonnaises 4-1 en demi-finale retour.